Philippe Fraisse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Trees Channel. On va parler avec vous de votre aventure d'entrepreneur et puis de votre dernier projet en cours, hein, important, notamment dans le domaine de l'open source. On va y revenir. Vous, les startups, on peut dire que vous baignez dedans, hein, depuis maintenant pas mal d'années. Vous avez connu aussi la bulle Internet?
J'ai connu la bulle Internet. À l'époque, j'étais plus du côté éditeur et entreprise. Mais depuis 2005, je suis passé du côté obscur de la force, du côté entrepreneur, effectivement, en créant Trees Channels, qui a deux activités. Une activité de conseil en développement pour des éditeurs de logiciels et des startups, très, très orientée sur les startups maintenant, et une activité d'investissement. Et à ce titre, en 2008, j'ai rejoint une aventure qui s'appelle Cobalt IT, qui est un éditeur phare dans le monde open source professionnel en France et qui voit aujourd'hui son développement à l'international avec une activité très importante en dehors des frontières.
Si on revient à l'instant sur les startups, c'est vrai que c'est un peu le sujet à la mode, hein, on va dire depuis maintenant plusieurs mois, on ne parle que de ça, on parle de Vegas, on parle startup, c'est quand même une aventure qui peut être parfois compliquée, qui peut être heureuse. Est-ce qu'il y a quand même certaines clés, certains points qu'on retrouve pour les startups qui vont aller plus loin justement que une belle création?
Alors là, on va partir sur un de mes chevaux de bataille. Effectivement, la France est un pays merveilleux pour la création d'une start-up. Je dis souvent en forme de boutade que la France est le paradis fiscal des créations de start-up. Ça se complique un peu plus tard, notamment au niveau de la levée de fonds et au niveau du développement à l'international. La levée de fonds parce qu'on n'a pas encore les habitudes des montants et des valorisations anglo-saxonnes, bien qu'il y ait un fort progrès. L'année dernière, on a battu un record, on a levé 7 milliards en France, ce qui est un chiffre énorme. Quand on le rapporte aux 77 milliards qu'a levé la Silicon Valley, on comprend qu'il y a encore un gap. Et puis, on a toujours cette frilosité, cette complexité à aller à l'international, et notamment parce que même si on en parle beaucoup, et là c'est mon deuxième sujet, l'open innovation est un sujet encore très défaillant en France, et je pense que le modèle d'open innovation à la française, pour l'instant, ne fonctionne pas.
C'est-à-dire que le start-upper, les deux qui s'associent sur une start-up, finalement, n'ont pas ce réflexe international au départ. Il va arriver après, ils vont penser d'abord France.
Alors, il y a effectivement, bien que ça change, hein, il y a effectivement un problème de l'entrepreneur qui est de ne pas penser global. Et puis, il y a un problème de la relation entre la start-up française, les pouvoirs publics et les grands groupes, qui, à mon avis, est extrêmement défaillant. Et si j'en reviens à Cobalt IT, c'est un des vrais sujets sur lesquels on a dû se battre, on doit se battre encore. On dit souvent que nul est prophète en son propre pays, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on réalise plus de 80% de notre chiffre d'affaires à l'export sur des pays anglo-saxons, ce qui n'est pas un sujet facile pour un éditeur logiciel français. On a un rapport à la puissance publique qui est complexe parce que le sujet de l'open source au niveau des directions achats n'est pas bien compris. On fait encore assez mal le distinguo entre logiciel libre et open source professionnel. Donc, il y a une difficulté avec les achats. Il y a une difficulté avec la puissance publique qui continue encore à préférer acheter au prix fort des produits anglo-saxons plutôt que d'accompagner et de soutenir une start-up. Et enfin, la relation avec les grands groupes qui eux-mêmes ont du mal à accompagner le développement d'une start-up et à jouer vraiment le jeu pour lui permettre, grâce à ses moyens, ses réseaux et sa puissance de frappe, d'atteindre ce seuil organique nécessaire à un bon développement à l'international. Donc oui, là-dessus, il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Oui, on voit souvent les grands groupes créer leurs incubateurs, créer leur effectivement start-up ou faciliter l'accès des start-up, mais on les voit aussi étouffer les start-up. Donc on voit cet écosystème qui grandit, mais elles ne vont pas au bout de la démarche souvent.
C'est vrai, c'est un double problème. Il y aura bientôt plus d'incubateurs que de startups à Paris, ce qui est un vrai sujet, ce qui pose la question de la qualité. Et puis il y a cette relation qui peut être parfois malsaine entre un grand groupe qui préfère disséminer un peu d'argent dans des startups et en faire une R&D externalisée, et puis aller extraire des idées, plutôt que de permettre à ces startups de se développer à l'international, de grandir et de passer des caps. Et on a deux exemples qui sont positifs et que je trouve aussi négatifs en France, c'est Captain Train et WeThings, qui ont été rachetés pour des sommes conséquentes, mais pas hallucinantes, l'un en Angleterre et l'autre en Scandinavie. Et je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas su accompagner ces startups-là avec des groupes du CAC 40 qui avaient à la fois les ambitions, les moyens, la structure et le périmètre financier pour le faire. Donc, à mon avis, c'est un demi-échec ou un demi-succès.
On compare souvent les levées de fonds américaines, effectivement, aux levées de fonds françaises. Et on a toujours en tête les 25 millions de dollars donnés aux deux fondateurs de Google. Donc c'est le premier qui avait à l'époque une feuille blanche avant d'avoir Google, 25 millions de dollars.
C'est un vrai problème et c'est en plus un problème de valorisation. C'est-à-dire qu'en France, on arrive à commencer à lever des sommes importantes. Mais avec quelle valorisation et surtout à quel moment du développement de l'entreprise, sur quelle promesse? C'est encore un vrai sujet, c'est une difficulté. Si je le ramène encore une fois à mon expérience avec Cobalt IT, quand on a voulu lever de l'argent, c'était il y a 5-6 ans, c'était pas possible. Non pas qu'on voulait pas nous confier de l'argent, mais qu'on avait un problème à valoriser l'entreprise sur son chemin prospectif. Aujourd'hui, nous, on veut pas être, la plupart des startups ne veulent pas que des investisseurs rentrent avec la valorisation du bilan comptable. Elles le veulent, on veut que ça rentre avec la prospective de gains et du développement de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai sujet. Et on retombe à nouveau sur les problèmes de valo, de levée de fonds, de rapport aux grandes entreprises.
Alors, le sujet effectivement open source est important. Est-ce qu'il y a là aussi, je dirais, encore un gros travail de conviction à faire? Ça permettra à Cobalt IT de se développer, mais plus globalement, auprès de tous les acteurs, il n'y a pas encore une prise de conscience. On voit parfois des procès justement pour des grands groupes américains, les fameux GAFA. Il y a vraiment encore un manque de ce côté-là, il n'y a pas de prise de conscience.
Il y a une prise de conscience, il y a encore parfois loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire que ce soit à l'Europe, que ce soit d'un point de vue gouvernemental, on encourage vraiment à qualité égale les entreprises à choisir l'open source. C'est encore difficile, notamment en France. La France est un pays qui résiste beaucoup, et là où elle devrait résister le moins, c'est-à-dire sur les établissements publics ou parapublics, sur les ministères, on continue à préférer d'acheter justement des logiciels on-premise sur le modèle historique qui vont être payés 2 fois, 5 fois, 10 fois plus cher, d'une certaine manière par le contribuable, plutôt que de favoriser une société sur un modèle open source qui va apporter plus de liberté, qui va apporter plus de garanties et surtout qui va apporter du made in France, ce qui est un peu dommage. Ça change, mais ça change très lentement et on a encore des gros bastions de résistance, notamment sur l'administration publique.
Pour conclure, vous êtes toujours en veille d'investissement, bien entendu, de ce que vous pouvez faire. On sait bien qu'investir dans une start-up, voilà, on peut investir dans 10 start-up, il y en a une qui va effectivement fonctionner, c'est souvent un petit peu le ratio qu'on a. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des aventures qui vous paraissent intéressantes, des nouveautés qui vous paraissent intéressantes?
Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai investi beaucoup dans l'e-commerce et avec des sorties par le haut, avec Restoin, avec CityCake. Je fais partie des cofondateurs de Stuart Delivery qui a réussi une des très belles levées de 2015 avec plus de 22 millions d'euros. Donc je suis très concentré sur ces sujets-là. Aussi tout ce qui va réconcilier le retail et l'e-commerce, l'apparition de marketplaces qui refont la part belle aux petits commerces et permettent à ces gens-là d'accéder aux moyens numériques. Ça, c'est un vrai sujet pour moi. Et puis pour la première fois en 2016, je vais investir dans les IoT, dans la beauté connectée, sur un très beau projet, pardon, qui s'appelle Wired Beauty, qui va être le premier masque connecté, qui est un projet qui est passionnant.
Voilà, il y a toujours des opportunités. Merci.
Toujours.
Merci Philippe Fraisse.
Merci beaucoup.